On raconte l'histoire d'un village anglais où se trouvait une chapelle avec au-dessus de l'arche d'entrée une inscription qui disait « Nous prêchons Christ crucifié ». Puis le temps a passé et un nouveau pasteur qui considérait le message de la croix dépassé a commencé à prêcher la vie exemplaire du Christ car il ne comprenait pas la nécessité de son sacrifice. Puis, avec le temps, du lierre a grimpé le long de l'arche et a couvert le mot « crucifié », ce qui fait qu'on ne voyait plus que « nous prêchons Christ ». Puis, un prédicateur moderne est arrivé qui a décidé que son message ne devait pas se limiter à Jésus, si bien qu'il a commencé à faire des discours sur des questions sociales, politiques et philosophiques. Le lierre a continué à s'étendre et a fini par couvrir le mot « Christ ». Désormais, on ne pouvait plus lire que « Nous prêchons ». Quand l'apôtre Paul écrit aux croyants de la ville sophistiquée de Corinthe, il leur dit « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Le Christ en croix est l'unique espérance d'une humanité à la dérive. Alors que dans le chapitre précédent, l'auteur a mis l'accent sur la nécessité de la mort de Jésus, dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il explique ce que ce sacrifice a permis d'accomplir. Je commence à le lire. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Verset 1. Le mot pour ombre désigne une lueur pâle et mal définie. Les rites et les cérémonies de l'Ancien Testament n'étaient pas la réalité, mais seulement sa représentation symbolique. Par contraste, le mot pour image désigne une réplique exacte comme ce qui serait rendu par une photo en couleur nette, détaillée et bien contrastée. Sous l'ancienne alliance, les prêtres étaient occupés de l'aube au coucher du soleil, égorgeant et immolant des animaux quelquefois par milliers. Pour la fête de Pâques, par exemple, on abattait jusqu'à 300 000 agneaux en une semaine, et il y avait tellement de sang qu'il s'écoulait par des canaux aménagés à cet effet jusqu'à un torrent en contrebas. Mais cet abattage massif n'accomplissait pas grand-chose car de toute façon, il ne pouvait pas ôter les péchés ou donner accès à Dieu. Même pour le Yom Kippour, le grand jour des expiations, seul le grand prêtre était autorisé à pénétrer dans le lieu très saint où se trouvait la personne de Dieu. Nul autre n'avait le droit de l'accompagner. Tous les rites, cérémonies et sacrifices, inlassablement répétés, ne pouvaient jamais amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Ils ne donnaient pas le salut ni la position de juste devant Dieu. Le sacerdoce lévitique était purement symbolique. C'était une ombre des biens à venir, un reflet des réalités célestes. À ce titre, la partie cérémonielle de la loi de Moïse annonçait Jésus-Christ qui serait l'accomplissement des biens à venir, le pardon, la paix avec Dieu, une conscience pure, la sécurité et l'accès auprès de Dieu. Sous le régime de l'Ancien Testament, ces bénédictions n'étaient pas réalisées. Même si l'Ancienne Alliance n'était qu'une ombre de la Nouvelle, elle avait son utilité car elle était comme un livre d'images qui avait pour but pédagogique de préparer les Israélites à la venue du Messie. Mais, dans leur rébellion persistante, ils ont refusé d'écouter l'Éternel, ce qui leur a valu de terribles jugements. Quand Jésus était en Palestine, il a dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » L'auteur souligne aussi, une fois encore, que les mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année ne peuvent jamais rendre parfait. Certes, ils protègent le pécheur de la colère de Dieu, mais ne peuvent jamais le rendre présentable devant lui. Plus de la même chose n'engendre pas de changement notable. C'est comme tourner en rond ou une multiplication par le chiffre 1. Peu importe le nombre de fois qu'on fait l'opération, on reste toujours sur la case départ. Cela dit, les Israélites avaient reçu un certain éclairage concernant les réalités célestes, et même si ce n'était que la lueur d'une bougie par rapport aux ténèbres dans lesquelles vivaient mes ancêtres païens, cette faible clarté était comme la lumière du soleil en plein midi. Aujourd'hui, le judaïsme traditionnel a délaissé à peu près tous les symboles du système sacerdotal lévitique. Les Israélites disent accepter les textes de l'Ancien Testament et célèbrent toujours certaines fêtes, mais ils n'ont ni temple, ni prêtre et n'offrent plus aucun sacrifice, quotidien ou annuel. Ils observent le grand jour des expiations, mais c'est une coquille vide dépourvue de tout le rituel qui était pourtant indispensable sous l'Ancienne Alliance. Ils célèbrent ce jour solennel sans un grand prêtre, sans autel et sans agneau sacrifié, selon les règles de la loi. Non seulement ils refusent de reconnaître la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec eux, mais l'ancienne a perdu toute sa signification. Ce qui était l'ombre d'une réalité a été abandonné, et ce qu'il en reste est désormais relégué au rang d'une tradition qui permet seulement aux Israéliens de conserver leur identité juive. Les personnes bien pensantes qui croient pouvoir plaire à Dieu en observant les 10 commandements ou le sermon sur la montagne, sans se soumettre à tout le rituel de l'Ancienne Alliance, ne font les choses qu'à moitié, car il leur faudrait aussi construire un tabernacle et faire l'élevage de bovins, moutons et d'agneaux, afin de pouvoir offrir des sacrifices. Cela dit, ils perdraient leur temps, de toute façon. Car si la loi de Moïse ne peut en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu, combien plus impuissante et inopérante est l'ancienne alliance aujourd'hui, vu que nous sommes sous la nouvelle alliance de la grâce. Je continue le texte. Si la loi de Moïse avait pu amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Versets 2 et 3. Le mot pour conscience désigne la culpabilité de celui qui a commis une faute. Or, elle ne disparaissait jamais. Les Israélites offraient constamment des sacrifices, mais le sang ainsi versé couvrait leurs péchés, mais ne les ôtait jamais. Or, l'homme a justement besoin de se savoir pardonner. En second lieu, la nécessaire répétition des sacrifices rappelait sans cesse que les péchés étaient toujours bien présents. Sous l'Ancienne Alliance, la situation des Israélites était comparable à celle d'un patient qui souffrirait du sida. Tous les jours, aux mêmes heures, il doit prendre plusieurs pilules qui lui procurent un soulagement temporaire et lui permettent de rester en vie, mais elles ne le guérissent jamais. La boîte de médicaments devant ses yeux lui rappelle qu'il est un malade perpétuel. Le système sacerdotal juif dirigeait toujours l'attention sur le problème du péché qui n'était pas réglé. Par contre, sous le régime de la grâce, l'apôtre Paul peut écrire « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Les croyants ont le privilège de ne plus être coupables et de se savoir pardonner. » Cela dit, ceux qui cherchent à plaire à Dieu sont davantage conscients de sa sainteté et de ses normes de justice, ce qui les rendra plus sensibles à l'égard de leurs égarements. Après le sacrifice parfait de Jésus sur la croix et la mise en application de la nouvelle alliance, les Israélites auraient évidemment dû abandonner le sacerdoce lévitique. Mais comme ils ont persisté dans leur attitude rebelle, Dieu a fait cesser de force les sacrifices par l'intermédiaire des Romains qui ont réduit Jérusalem en cendres. Depuis, les Juifs n'ont jamais plus reconstruit le temple. Je continue le texte. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Verset 4. Les immolations d'animaux procuraient une pureté rituelle extérieure. Ils couvraient les fautes commises par inadvertance, mais ils ne réglaient pas le fond du problème et ne procuraient pas le pardon de Dieu. C'étaient des rites et des symboles en attendant que Jésus ne vienne. Quand on y réfléchit, toute offense contre Dieu est un crime de lèse-majesté d'une magnitude infinie. Comment le sang d'un animal pourrait-il réparer une telle faute? C'est impossible. Seul Jésus, parce qu'il est divin et donc un être infini, pouvait effacer les péchés. Sa mort sacrificielle est le châtiment qui a satisfait la justice et la sainteté de Dieu. Il s'ensuit que seule la foi en Jésus permet d'obtenir le pardon. Je continue le texte. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. » Versets 5 et 6. L'auteur cite un texte de l'Ancien Testament où le Messie s'adresse à l'Éternel et lui dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. » Mais curieusement, l'expression « tu m'as ouvert l'oreille » de l'Ancien Testament est interprétée par l'auteur de cette épître et devient « tu m'as formé un corps ». Cette histoire d'oreille est une référence à une coutume de l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, on ne déclarait pas banqueroute car la loi offrait un moyen de payer ses dettes. Quelqu'un qui n'était plus en mesure de leur faire face pouvait devenir le serviteur obligé de son créancier afin de les rembourser. Une fois l'ardoise effacée, ce qui prenait souvent plusieurs années, l'homme retournait chez lui. Mais si entre-temps il s'était marié, sa famille restait la propriété du maître. Seulement ce serviteur avait lui aussi la possibilité de rester. Dans ce cas, il allait avec son maître devant les juges de la ville et on lui perçait l'oreille. Cette cérémonie qui s'appelait « ouvrir l'oreille » signifiait qu'il écouterait tous les ordres de son maître et lui obéirait jusqu'à la fin de ses jours. Jésus a pris notre humanité pour devenir un serviteur soumis qui a parfaitement obéi à Dieu. Mais au lieu d'avoir son oreille perforée, c'est son corps qui a été percé de clous et d'un coup de lance. Les expressions « tu m'as ouvert l'oreille » citées dans l'Ancien Testament et « tu m'as formé un corps » qui est l'interprétation de l'auteur de cette épître reflètent toutes deux la volonté d'obéissance et de service de Jésus. Cette attitude de soumission à Dieu est bien plus importante à ses yeux que le respect des lois rituelles ou suivre une religion. Tous les rites du système lévitique n'avaient de valeur que dans la mesure où ceux qui venaient au temple offrir un sacrifice le fassent d'un cœur pur, sans hypocrisie, dans un esprit de contrition et qu'ils obéissent à la loi. Mais dans l'ancien Israël, tout le rituel des cérémonies a rapidement dégénéré et les mots et les gestes sont devenus quelque chose qu'il fallait faire pour que Dieu nous laisse tranquilles. Les Israélites ont très tôt manifesté leur tendance idolâtre en se comportant un peu comme des animistes. Quelques signes magiques par ici, une invocation par là, et le tour est joué. Les esprits nous sont favorables. Il va sans dire qu'avec une telle attitude, les offrandes des Israélites, au lieu de plaire à Dieu, devenaient une abomination dont il avait horreur. Le juge Samuel a dit à Saül, premier roi d'Israël, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et le prophète Ésaïe a commencé son ministère en disant « Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs, Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang. Levez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Fin de citation. Dans l'esprit de la loi de Moïse, le sacerdoce lévitique avec tous ses rites et cérémonies était symbolique. Il avait été institué comme moyen de manifester concrètement son obéissance à l'Éternel et devait être mis en pratique par la foi, mais les Israélites l'ont réduit à des simagrées. Ils pensaient qu'en se conformant à des gestes extérieurs, le Seigneur les bénirait. Mais offrir un sacrifice ou faire un rite pour la forme, sans obéissance, sans foi et sans dévotion envers Dieu, c'est se moquer de lui. Dans ces conditions, il est bien préférable de ne rien faire du tout. Dieu n'a jamais été satisfait par les sacrifices d'animaux parce qu'ils ne réglaient pas le problème fondamental du péché et encore moins quand ils étaient un exercice d'hypocrisie. Un rituel religieux vide de sens qui n'avait rien à voir avec l'obéissance et la foi. Il n'est donc pas étonnant que le Messie, s'adressant à l'Éternel, dise « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice ». En substance, il voulait dire « Père, je sais que tu n'es pas satisfait par l'ancien système et par les anciens sacrifices, alors je vais m'offrir moi-même le prix de l'obéissance ». Je continue le texte. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 7. Le rouleau du livre est l'Ancien Testament dans son ensemble. Les textes sacrés étaient écrits sur des parchemins puis conservés, enroulés. La mission suprême de Jésus fut de faire la volonté de son Père, ce qu'il a dit à plusieurs reprises durant son ministère, et son ultime acte d'obéissance fut d'aller à la croix. Mais ça n'a pas été facile, même pour le Fils de Dieu. Alors qu'il agonisait dans le jardin de Gethsémané, il a prié « Abba Père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe ». Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors que bien des gens sont morts martyrs, personne n'aurait pu prendre sur lui les péchés du monde ni éprouver une répulsion aussi forte que Jésus à faire une telle action. Je continue le texte. Jésus commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché ». Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Versets 8 et 9. L'auteur explique le texte de l'Ancien Testament qu'il vient de citer. Le sacerdoce lévitique a été supprimé car étant temporaire et symbolique, il ne satisfaisait pas Dieu. En effet, d'une part, il ne pouvait pas effacer les péchés, et d'autre part, les Israélites en avaient fait des rites vides de sens. Par contre, la seconde et nouvelle alliance réalisée en Jésus est parfaite et efficace, car elle ôte les péchés jusqu'à en faire disparaître le souvenir. Comme les Israélites ne pouvaient pas être sous deux alliances à la fois, la première est devenue caduque, dès l'application de la seconde. Je continue. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Verset 10. Le mot sanctifié veut dire mis à part pour Dieu, et le temps du verbe indique la permanence de cette sanctification. L'auteur de l'Épître utilise ce mot pour définir la position du croyant qui appartient à Dieu et qui est juste devant lui. Je continue. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés et il siège à la droite de Dieu où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Versets 11 à 13. Le système sacerdotal israélite comportait 24 ordres ayant chacun plusieurs centaines de prêtres qui à tour de rôle prenaient leur service dans le tabernacle. Mais ce système ne menait nulle part. Alors que les prêtres lévitiques étaient nombreux et offraient sans arrêt les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, Jésus, par contre, a offert un seul sacrifice qui ôte les péchés, qui est valable pour toujours, puis il s'est assis. Par cet acte de justice unique, le Christ a vaincu Satan, les puissances démoniaques, ainsi que tous ceux qui se sont jamais opposés à lui. Maintenant, il attend le jour où tous seront obligés de reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs et de se prosterner à ses pieds. Je continue. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Verset 14. Tel que l'auteur l'envisage, la perfection est une position légale et non pas une réalité terrestre. Ceux qui font confiance à Jésus sont rendus parfaits dans le sens qu'ils sont déclarés justes devant Dieu et sont considérés comme n'ayant jamais péché. Cette vérité extraordinaire dépasse ma compréhension.